Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres, l'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anahata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin. Car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi. Alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, au micro d'Anahata Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Marina Colombé. Alors Marina, que j'ai rencontrée à la Maison de la Femme à Saint-Jean-Luz. Et oui, encore une. Mais c'est vrai que dans cette saison, j'avais vraiment envie de mettre en lumière les femmes de qui je m'entoure, ces femmes thérapeutes avec qui j'adore collaborer. Et forcément, Marina fait partie de l'un de ces piliers-là. Donc j'avais vraiment envie qu'elle puisse venir expliquer à quoi correspond une psychothérapie, quels outils, qu'on démystifie un peu tout ça, même si c'est encore aujourd'hui un tout petit peu tabou, mais j'ai l'impression que ça évolue de plus en plus et j'en suis la première ravie. J'en parle très souvent, que ce soit avec mes patientes, avec des amis, ou voire même des fois avec vous sur Instagram, mais je pense qu'il est aussi important de prendre en considération l'aspect mental, physique et émotionnel d'une personne. Et donc forcément, nous en tant kiné, des fois, on manque d'outils, très simplement, parce qu'on n'a pas forcément été formés là-dessus. Et pour autant, qu'est-ce que ça peut aider les femmes, les patientes et patients d'aller travailler sur certains petits traumas qu'on pourrait avoir, certaines émotions, certaines choses qui n'ont pas été peut-être digérées correctement, est-ce qu'on peut le dire comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans cet épisode, on va vraiment parler des techniques de psychothérapie que Marina utilise, dont particulièrement l'EMDR, où j'avais vraiment envie que vous puissiez toutes connaître cette technique suite à cet épisode de podcast. Et bien sûr, on a dérivé, mais c'est ça que j'adore dans ces épisodes-là. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à réécouter cet épisode lors du montage et je remercie encore mille fois Marina. Il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, Marina n'est plus à la Maison de la Femme à Saint-Jean-Luz. En tout cas, elle ne consulte plus là-bas parce qu'elle a enfin trouvé un local rien qu'à elle à Cibourg. Donc l'adresse de son cabinet sera juste en barre dans la description. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours hâte et je collabore toujours avec elle. Donc vraiment, j'espère que cet épisode vous plaira, que vous pourrez en apprendre vraiment plus sur votre santé mentale, sur comment fonctionne notre cerveau et sur tous les outils que vous avez à disposition si un jour vous en ressentez le besoin. Donc n'hésitez pas à partager vos retours sur l'épisode. Et puis, j'arrête de blablater et je vous laisse avec l'épisode de Marina. Bonjour Marina et bienvenue sur Anahata Podcast.
Bonjour Maïté.
Alors je suis trop contente aujourd'hui de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet moi qui me tient à cœur et que j'ai envie d'aborder depuis un bon moment. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites ?
Alors moi je suis Marina Colombé, donc je suis psychologue et psychothérapeute et j'interviens au sein de la Maison de la Femme à Saint-Jean-Luz. Je suis aussi maman d'une petite fille qui a 3 ans et qui fait partie aussi de mon processus d'évolution. Moi, ce que j'adore dans ma vie, c'est explorer, expérimenter des nouvelles choses et notamment des nouvelles techniques thérapeutiques que ensuite je mets à profit de mes patients.
Et c'est là où on s'est rencontrés, à la Maison de la Femme. Du coup, il y aura plein d'épisodes avec des personnes que j'ai rencontrées via la Maison de la Femme dans cette saison-là, mais à la fois, c'est tellement bien. Est-ce que déjà, tu peux nous dire quand est-ce que tu consultes à la Maison de la Femme ?
Oui. Alors, je suis là tous les jours sauf le lundi, donc je suis présente du mardi au vendredi.
Trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te spécialiser là-dedans ou te dire je veux être psychothérapeute ? Enfin, est-ce qu'on dit psychothérapeute au fait ou pas ?
Oui. Ouais. Alors moi je suis psychologue et psychothérapeute et c'est vrai que tu fais bien de le souligner parce qu'il y a pas mal de confusion pour les gens qui sont pas du métier. Donc les psychologues, c'est des personnes qui sont formées dans une formation vraiment réglementée par l'État. Donc c'est un master, donc c'est 5 ans d'études. Le master que j'ai choisi, donc le master de psychologie clinique, donne aussi le titre de psychothérapeute. Et ensuite, il y a d'autres écoles privées en France qui donnent le titre de psychothérapeute. Donc aujourd'hui, ces deux titres sont réglementés.
Ok. Et est-ce qu'il y a des différences? Enfin, du coup, il y a des personnes qui peuvent être que psychologues et d'autres que psychothérapeutes, ou généralement, quand t'es psychologue, t'es aussi psychothérapeute?
Non, on peut être juste psychologue. Il y a plein de spécialités en fait en psychologie. Ouais. On peut être par exemple psychologue du travail, donc spécialisé dans les organisations, dans le système du travail, etc. Donc ces personnes-là ne sont pas forcément psychothérapeutes, par s'ils font des formations complémentaires. On va dire que le psychologue est un spécialiste dans l'analyse du psychisme humain, du fonctionnement, qu'il soit, on va dire, en santé ou pathologique.
Ok.
Le psychothérapeute, lui, il est formé à des techniques vraiment de thérapie qui visent à soulager la souffrance, qui visent à libérer certaines émotions, en tout cas, qui amènent la personne vers un objectif. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Le psychologue, c'est plus l'analyse du fonctionnement, et le psychothérapeute, plus dans l'action, dans des techniques, en fait.
Oui.
Voilà.
Et on est d'accord que c'est aussi différent d'un psychiatre.
Tout à fait. Alors, un psychiatre, c'est encore autre chose. Les psychiatres, ce sont des médecins, donc qui ont fait un cursus de médecine, qui sont, eux, disposés à prescrire des médicaments, si besoin, donc notamment des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Ce sont les psychiatres également qui peuvent donner des diagnostics de pathologie. Ça, c'est pas du registre du psychologue, même s'il est amené à travailler notamment en structure, avec des personnes qui ont des pathologies psychiatriques. Nous, on n'est pas à même de faire des ordonnances, de prescrire des médicaments, etc. Voilà. Et pour les psychiatres, on va dire que malheureusement, le système de santé comme il est fait aujourd'hui, souvent ne donne pas le temps nécessaire aux psychiatres, parce qu'ils sont souvent débordés. Donc en général, ce sont des consultations plus courtes que chez le psychologue. Et les psychiatres vont surtout évaluer s'il y a pathologie ou pas et prescrire des médicaments. Certains, en revanche, sont formés à des thérapies, mais pas tous. Voilà, c'est vraiment un choix personnel de formation en plus pour faire des thérapies ou pas.
On est d'accord que là-dessus aussi, si je me trompe pas, il y a aussi une différence du coup sur les remboursements aussi du fait que le psychiatre soit un médecin.
Exactement. Consultations sont remboursées chez le psychiatre, mais pas chez le psychologue pour le moment. Oui. Je dis ça, mais il y a eu un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement l'année dernière, qui consiste à proposer un remboursement pour les psychologues qui le veulent sur 8 séances dans l'année sous prescription médicale. Mais pour rentrer dans ce dispositif, il faut vraiment correspondre à certains critères. Du coup, tous les patients ne peuvent pas en bénéficier. Et en plus, bon, à mon sens, il n'est pas du tout adapté ce dispositif parce qu'ils se sont basés sur le remboursement des médecins généralistes, donc avec un remboursement à 3 de 25 euros, quelque chose comme ça par séance. Or, la consultation d'un psychologue, c'est plutôt une heure qu'un quart d'heure, donc financièrement, c'est pas possible pour nous, professionnels. Donc, la plupart des professionnels de santé, donc des psychologues, refusent ce dispositif. Donc, certains le font, mais c'est quand même une minorité. Par contre, pour la plupart des psychologues, il peut y avoir un remboursement par la mutuelle d'un certain nombre de séances. Un petit peu comme les ostéopathes. Alors, c'est important de se renseigner si vous voulez consulter un psychologue, parce que depuis ce qui s'est passé, depuis le Covid, quand même la santé mentale des Français en a pris un coup. Et de plus en plus de mutuelles remboursent un forfait de séances dans l'année.
Et puis il y avait eu ce forfait-là, je sais plus combien il y avait eu de séances, mais moi justement, j'étais surprise, j'avais envoyé à ma mutuelle comme ça, et puis j'avais été remboursée, et c'était après où j'ai vu que c'était par rapport au Covid, où en fait ma mutuelle avait finalement je pouvais être remboursée de, j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être 5 séances dans l'année, mais c'est bête, mais c'était appréciable pour une fois, je me disais, bon ça va, pour une fois, genre un peu moins calculer quand est-ce que du coup ça peut rentrer dans mon budget ou pas, ou alors de le mettre en priorité comparé à d'autres choses, donc c'est cool. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du remboursement qu'ils avaient proposé au niveau de la sécu, moi je trouvais ça un peu hallucinant, parce que c'était, encore une fois, je trouve, brader encore une fois les soins, et au final, tout le monde en empathie, quoi, finalement, parce que les patients, si, parce que je sais pas comment elles font, celles qui le proposent, du coup, les psychologues, mais si tu t'es payé 25 euros pour une séance d'une heure, enfin, ça devient vite compliqué. Et à la fois, si tu les prends que sur 30 minutes, moi je le sais, en kiné, 30 minutes ça passe beaucoup trop vite, quoi. Et moi souvent je suis frustrée du fait qu'en 30 minutes j'ai à peine le temps de demander comment ma patiente va, et puis il y a déjà 15-10 minutes qui sont passées, et là tu te dis mince, faut avoir le temps encore pour faire autre chose, quoi. Donc,
ouais. Moi, je veux pas parler pour elle, mais je pense que beaucoup, enfin pour il plutôt, je veux pas parler pour les psychologues qui le font, mais en tout cas, je pense oui qu'ils réduisent la durée de séance, ça me semble difficilement possible autrement. Bon, c'est, après, c'est des choix. Hein.
Complètement.
Peut-être que pour les enfants, pour certains adolescents qui ont peut-être besoin de séances plus courtes, ça peut être adapté. Mais en tout cas, moi, pour les techniques que j'utilise vraiment de libération émotionnelle, ça ne l'est pas. Parce qu'il faut vraiment avoir le temps de connecter à la mémoire traumatique, pouvoir la libérer, la faire circuler et la faire redescendre, surtout pour retrouver un état émotionnel plutôt neutre à la fin. Et ça, en 20 minutes, c'est impossible.
J'imagine. Et du coup, c'est quel type de profil qui viennent te consulter, ou en fait, quand est-ce que tous les auditeurs et auditrices de ce podcast peuvent se dire, ben, en fait, quand est-ce que je peux avoir besoin de consulter un psychologue ou un psychothérapeute ?
Alors, j'ai plusieurs profils différents. Moi, je travaille plutôt avec les adultes parce que je suis pas forcément formée à l'accompagnement des enfants. Il peut m'arriver d'accompagner certains adolescents, mais sur des problématiques bien précises. Je fais pas de thérapie familiale, je fais pas tout ça. C'est quand même des choses spécifiques. Moi, je me suis vraiment spécialisée en libération émotionnelle. Donc, je reçois des personnes qui constatent dans leur vie aujourd'hui des réactivations au niveau émotionnel, qui se disent « mais tiens, là, je réagis, peut-être de manière un peu excessive, mais c'est plus fort que moi. Je sais que cette situation, elle mérite pas ça en termes d'intensité émotionnelle, mais il n'empêche que c'est plus fort que moi, que je suis pas bien, etc. etc. » Donc, quand on entend ce discours, ça montre en fait qu'il y a autre chose derrière. Et que sans doute il y a des mémoires du passé qui n'ont pas pu être correctement traitées et du coup qui nécessitent de l'aide pour circuler à l'intérieur du corps.
Et ça, là, au niveau plus physiologique dans le corps, comment ça s'explique que justement il y a des choses qui puissent rester et du coup réactiver des émotions à ce moment-là? Parce que je suis pas sûre que tout le monde. Enfin, est-ce qu'on le sait aussi aujourd'hui, mais tu vois, pour certaines personnes, ça peut être ultra abstrait. Mmh. Bon, parce que déjà, au niveau des émotions, on n'est pas ultra éduqué là-dessus, déjà, je trouve, en tout cas. Mais est-ce que toi, t'as une manière d'expliquer à tes patientes ou tes patients, en fait ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous un processus de guérison naturel à l'intérieur de nous, et heureusement, qui fait qu'on peut vivre des choses un peu difficiles, et puis, plusieurs semaines, plusieurs mois après, on peut y repenser, on sent que c'est OK, qu'il n'y a plus d'intensité émotionnelle. Ce processus de guérison, il est en œuvre pendant le sommeil paradoxal. En fait, quand on rêve, on traite toutes les émotions de la journée et parfois du passé. Donc heureusement qu'on a ce processus-là et on fait ce qu'on peut, mais malheureusement, il n'est pas à 100% efficace ce processus-là, surtout quand on vit des choses à forte intensité au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit ? En fait, on fait des stimulations alternées, on fait des petits mouvements oculaires de droite à gauche, toutes les nuits dans le sommeil paradoxal. Et en fait, on s'est rendu compte, hein, notamment avec le développement de la thérapie EMDR, que c'était ce processus-là en partie qui permettait la guérison. Donc ça, c'est de manière optimale, on va réfléchir, on va penser, mais ça va se faire de manière complètement inconsciente, hein, pendant le sommeil, et on va pouvoir libérer tout ça. Sauf que quand il y a un problème, quand ça reste bloqué, ben on a besoin d'un petit peu d'aide. Et c'est là où j'interviens en règle générale.
Et tu me corriges si je me trompe, mais souvent du coup c'est aussi des personnes qui disent, quand ils reparlent d'un sujet, qu'on a l'impression de vraiment le revivre, ou qui se reconnectent de manière très forte à des sensations, à des odeurs, à des mots. C'est souvent signe que du coup l'émotion a peut-être pas été traitée correctement, ou en tout cas pas à 100%, parce que du coup il reste une intensité émotionnelle et des souvenirs qui sont très 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 marqués.
Ouais, exactement. En fait, la thérapie EMDR, bon, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure sans doute, mais elle a été vraiment utilisée avec les vétérans de guerre au début, donc avec les gens qui revenaient dans leur pays, qui avaient vécu des atrocités, mais dans leur pays ils étaient en sécurité, sauf que le système nerveux en fait ne comprenait pas que ce qu'ils avaient vécu appartenait au passé et que du coup ils n'avaient pas besoin d'être réactivés tout le temps. Donc les réactivations, oui, ça peut être par des odeurs, ça peut être par des images, ça peut être des manifestations physiques très importantes, des tremblements, le rythme cardiaque qui s'accélère, etc., etc. Donc là on va dire que c'est au paroxysme, hein, de l'émotion, mais même sans vivre de stress post-traumatique, c'est ce qu'on vit tous. On vit tous, malheureusement et heureusement, j'en sais rien, hein, mais des choses qui laissent des traces au niveau émotionnel. Particulièrement pendant l'enfance, on sait que le cerveau, quand on est enfant, en fait, il n'est pas complètement mature, notamment les zones du cerveau qui traitent les émotions. Et donc, du coup, bah, quand on est enfant et qu'on va vivre des choses un peu difficiles au niveau émotionnel, et on en vit tous, des frustrations, des séparations, etc., etc., bah, le cerveau, c'est un peu comme s'il était en surchauffe. Il ne va pas complètement réussir à traiter toute l'information, et c'est comme si ça restait, en fait, au niveau du cerveau. notamment dans cette zone qui s'appelle l'amygdale, qui est active en fait quand on ressent beaucoup d'émotions. Normalement, ben, ça passe par l'amygdale, ça traite, et puis après c'est classé dans la mémoire à long terme. On sait que c'est ok, ça appartient au passé, on n'a plus besoin de ressentir des émotions. Mais encore une fois, ça c'est l'idéal, dans la pratique ben, ça peut rester un petit peu bloqué à ce niveau-là. Alors là je parle beaucoup de l'émotion, mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que tout ce qu'on va vivre en fait va laisser des traces au niveau de notre perception, à la fois de nous-mêmes mais aussi de l'environnement et des gens qui nous entourent. Pour donner un exemple, voilà, un enfant qui peut vivre peut-être à l'école un peu de rejet, qui va être isolé, etc. Si ces situations se répètent, si c'est pas bien accompagné, etc., qu'est-ce qui peut se passer au niveau de son cerveau? Ben, il peut interpréter les choses de manière à se dire, bah tiens, si je suis rejetée, peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que je suis pas digne d'être aimée, ou peut-être que le monde est dangereux, et donc du coup, il va mettre en place des comportements pour se protéger de ce monde. Donc, ce qui peut créer vraiment, si on va au niveau de la pathologie, d'anxiété sociale, etc., mais sans parler de pathologie, ça peut créer un enfermement, ou en tout cas un repli sur soi, parce que on a interprété les choses de certaines manières.
Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Ouais. Alors que pour autant, il y a plein de personnes qui sont pas au courant de tout ça. Il y a aussi tout ce qui est sur l'abandon aussi, je trouve ça vachement intéressant, en fait, de se rendre compte que c'est pas forcément si on a été un enfant abandonné, enfin encore une fois tu me corriges si je me trompe, mais si juste à un moment donné on s'est senti abandonné dans une situation, ben en fait du coup ça peut se perpétuer après par la suite de par nos schémas, de par notre comportement, etc. Mais c'est juste intéressant de se dire qu'il y a des solutions. Ouais. Justement, parce que t'as dit qu'il y avait un processus d'auto-guérison, je pense que ça aussi on met pas assez d'accent tous là-dessus, parce que souvent moi personnellement mes patientes attendent souvent des fois la solution du thérapeute, alors en fait des fois la solution elle est juste en elles et on est juste là pour les aider à trouver en fait la solution, mais c'est à elles de faire aussi trois quarts du chemin, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Et, franchement on a tout en nous, mais on a besoin de l'autre souvent pour nous aider à les connecter en fait à ce processus de guérison. Et c'est pour ça que moi je dis souvent à mes patientes au tout début de la première séance qu'on va travailler ensemble en fait. Que moi j'ai pas les solutions, j'ai pas de méthode miracle, j'ai pas de baguette magique, mais par contre j'ai des outils qui peuvent les aider à faire circuler leurs émotions. Donc c'est ensemble en fait qu'on co-construit la thérapie. Pour moi c'est vraiment un processus en fait qui évolue au fur et à mesure, et c'est ensemble en fait qu'on donne la direction à tout ça.
Et justement, sur les émotions, tu sais, il y a plein de gens qui disent faut refouler ses émotions, ou faut au contraire laisser vivre ses émotions. Enfin, quel est ton avis là-dessus sur les émotions? Qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, si jamais il y a une marche à suivre?
Alors, on sait aujourd'hui, hein, notamment grâce aux études scientifiques qu'on n'avait pas il y a quelques années, mais on le sait aujourd'hui, qu'en fait, une émotion, pour qu'elle puisse circuler, elle a besoin d'être vue, d'être entendue, d'être reconnue. Et c'est ça qui va permettre le processus d'intégration émotionnelle. Je donne souvent l'image, en fait, une émotion, c'est comme si on avait un enfant, et les mamans qui nous écoutent, ça va leur parler, un enfant qui a vraiment envie de nous dire quelque chose et qui va nous tirer comme ça le bras, regarde. Et peut-être qu'on est occupé, et peut-être qu'on n'a pas l'espace pour regarder. Qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Ben, il va répéter, il va crier de plus en plus fort. Et si on n'écoute pas, il va vraiment peut-être pleurer, et ça va être très intense au niveau émotionnel. En fait, une émotion, c'est exactement comme cet enfant-là. L'émotion, elle va taper à notre porte. Si on ferme la porte, l'émotion, elle va rester. Hein. Mais elle va taper de plus en plus fort. C'est ça, le risque. Alors, peut-être qu'en effet, elle ne va pas entrer dans notre maison, mais elle va rester à la porte. Elle va être là, sur le palier. Alors que si on apprend à ouvrir la porte, ok, l'émotion elle va rentrer, elle va sans doute nous dire quelque chose, peut-être qui va pas être très agréable, mais une fois que ce sera dit, elle va pouvoir repartir et nous on aura de l'espace pour autre chose en fait dans notre maison.
Mais c'est ça où tu vois, je trouve que c'est vachement triste qu'on nous ait jamais appris à connaître nos émotions, à les identifier, puisqu'aujourd'hui, après j'inviterai aux auditeurs et aux auditrices à faire le test, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de citer plus de 10 émotions. Souvent on est limité, alors qu'en fait au final si on se rend compte de toutes les émotions qui peuvent exister, en fait finalement il y en a plein en fait. Enfin, il y a plein de manières, il n'y a pas toujours que de la colère, il n'y a pas toujours que de la tristesse, des fois ça peut être un mélange de plusieurs choses et au final on est très peu éduqué là-dessus, quoi.
Ouais, tout à fait, hein. Il y a des centaines de nuances en fait, hein, par rapport à nos émotions. Bon, déjà si on connaît les principales, c'est déjà pas mal, mais plus on va affiner, plus on va pouvoir donner des couleurs, j'ai envie de dire, à toutes nos émotions, plus on va être plus proche de nous-mêmes. Et c'est aussi un outil de connaissance de soi, à mon sens, parce qu'on sait que nos émotions désagréables, en fait, nous éclairent sur nos besoins. Nos besoins au sens large du terme, hein. Ça peut être le besoin d'affection, le besoin de stimulation intellectuelle, le besoin de contact social, vraiment les besoins au sens large du terme. Si on est en contact avec nos émotions, on observe nos émotions, on les reconnaît, on peut aussi faire le lien avec ses besoins. Ok, là je suis triste, bon ça fait une semaine que je suis pas sortie de chez moi, de quoi elle parle cette tristesse? Bon, mais peut-être qu'elle parle de mon besoin de contact, d'échange, d'affection, etc. Ok, du coup qu'est-ce que je peux faire? Bah peut-être que je peux appeler une amie, peut-être que je peux aller voir ma famille, etc. etc. Donc c'est aussi un outil de connaissance de soi, mais elle donne du pouvoir en fait. Parce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ses émotions.
Oui.
Donc ça, c'est pour les émotions du présent. Hein, mais parfois, en effet, elles ne parlent pas que de nos besoins du présent. Elles parlent aussi de certaines réactivations émotionnelles. Du coup, elles appartiennent aussi au passé. Et c'est là où ça peut être intéressant.
De consulter, parce que tout seul, ce n'est pas facile à faire non plus. Et justement, tout à l'heure, tu as commencé à parler d'EMDR. Bon, tu as déjà expliqué que du coup, c'était surtout fait avec les vétérans du coup, après la guerre et que c'était lié au mouvement des yeux. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur de cette technique-là? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler, j'ai l'impression, un peu plus.
Mmh. Oui, ça se développe beaucoup et c'est super, en fait. Hein. Alors, c'est Francine Shapiro qui a élaboré cette technique à partir d'une expérience personnelle. Elle était psychologue également et puis elle était atteinte d'un cancer. Et puis on venait lui apprendre une mauvaise nouvelle et elle s'allongeait dans un parc en fait et puis elle regardait les feuilles des arbres bouger, donc ses yeux naturellement regardaient de droite à gauche avec le vent, donc elle regardait ce mouvement-là et puis elle restait, je sais pas, une demi-heure comme ça, puis elle s'est rendue compte à la fin qu'elle allait un petit peu mieux. Et comme elle était thérapeute également, elle s'est demandé mais qu'est-ce qui s'est passé sur mon émotion. Et elle s'est demandé si c'était pas ces stimulations oculaires de droite à gauche qui auraient pu avoir un effet sur son émotion. À partir de cette découverte-là, en fait, elle a mis en place tout un protocole d'exploration avec ses patients et elle s'est rendue compte, en effet, qu'il y avait cette stimulation alternée qui pouvait être efficace, mais elle a mis aussi en place toute une théorie autour du trauma. Alors, quand je dis trauma, parfois, ça fait peur. Il faut vraiment savoir que, quand je dis, moi, le mot trauma en EMDR ou dans d'autres techniques de libération émotionnelle, un trauma, c'est simplement un événement qui a laissé une trace émotionnelle à l'intérieur de nous. Donc, on n'a pas besoin de vivre des atrocités pour vivre un trauma. Voilà, ça, c'est important, je pense. Et donc, du coup, il y a tout un protocole qui a été mis en place à partir de cette découverte-là. Et on utilise ces stimulations alternées, du coup, pour activer ce processus de guérison naturelle dont j'ai parlé. Et on se centre, en fait, sur ou un souvenir ou un événement du présent qui active des émotions pour la personne. On lance ce processus avec les stimulations alternées. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était pas que les yeux. On peut faire les stimulations alternées avec tous nos sens.
Oui.
Je sais qu'il y a des thérapeutes qui ont des casques avec des sons de droite à gauche. Moi, j'utilise beaucoup le tapping, donc c'est toucher le genou droit et le genou gauche, donc j'utilise plutôt le toucher. Donc ces stimulations alternées vont lancer le processus de guérison à l'intérieur du cerveau. Et il peut y avoir des pensées qui arrivent dans la tête de la personne, il peut y avoir des sensations corporelles, bien sûr, des émotions, il peut y avoir des images d'autres moments. Tout simplement, pourquoi? Parce que en fait, on active notre réseau traumatique. Le réseau traumatique, c'est l'idée que en fait, on va vivre des choses, mais c'est rarement isolé. Et du coup, ce réseau traumatique, il consiste à aller explorer en fait plusieurs scènes, plusieurs situations dans notre vie qui ont un lien. Qui ont un lien en termes d'émotion, donc ça peut être la même émotion, qui ont un lien en termes de traitement cognitif, donc c'est-à-dire peut-être que j'ai perçu la chose de la même manière. Et on va aller explorer en fait toutes ces situations pour pouvoir lever, pour pouvoir libérer toutes les émotions qui sont associées à tout ça.
C'est trop fascinant. Moi, je trouve que c'est trop fascinant et merci de la petite parenthèse sur le trauma. Ouais. Parce que je le vois aussi que des fois, moi, quand j'utilise ce mot avec mes patients, des fois, j'ai l'impression de les choquer. Et des fois, justement, je me sens obligée aussi de leur expliquer qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu des choses vraiment horribles pour utiliser le mot trauma. Ou des fois, je me dis qu'il faudrait que j'arrête d'employer ce mot et d'en trouver un autre un peu plus doux pour peut-être pas est choquée ou je sais pas. Là, par exemple, est-ce que tu aurais un exemple un peu plus concret d'un cas justement où le MDR a aidé ? Bon, je dis ça même si je pense qu'à chaque fois tu utilises plusieurs techniques et qu'il n'y a pas que le MDR. Mais en dehors de des vétérans de la guerre, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui puissent s'identifier à ça.
Ouais. Oui, alors c'est vrai que bon, moi j'ai une approche intégrative, donc je suis formée à plusieurs types de techniques, donc j'utilise souvent plusieurs types de techniques, à part s'il y a une demande vraiment de la personne. Il y a des gens hein, qui ont ou déjà fait une certaine technique, ou qui ont entendu parler d'une technique qui veulent vraiment... C'est ok, je m'adapte. Hein. Alors en fait, le MDR, on sait que ça marche pour beaucoup de choses. Alors, bien sûr, c'est une des thérapies avec les TCC qui est le plus recommandée pour les stress post-traumatiques, donc comme j'ai dit, bon, les vétérans de guerre, les gens qui ont vécu par exemple des attentats, mais aussi tout ce qui est atteinte physique en fait, hein. Donc les abus de façon générale, les agressions physiques, que ce soit la violence, donc pour la maltraitance aussi vécue pendant l'enfance, ça peut être une technique qui est intéressante pour les violences conjugales. Toutes les situations en fait où le corps a vraiment intégré la notion de danger. Et ce qui peut se passer quand on vit du coup bon, des traumas à forte intensité, c'est ce mécanisme en fait de dissociation. La dissociation, c'est ce processus, c'est un mécanisme de défense en fait hein, du corps quand on vit des choses qui sont trop intenses au niveau émotionnel pour éviter que ça court-circuite hein, là-haut. C'est comme si il y avait un moment de pause. Et les gens qui ont vécu ça souvent hein, parlent, c'est comme si j'étais plus là, si j'étais plus dans mon corps, etc. C'est ce mécanisme de la dissociation. Donc c'est un mécanisme pour nous protéger, et heureusement qu'il est là, mais malheureusement, si on le garde, ce mécanisme-là, il n'est pas adapté à notre vie de tous les jours. Et c'est important de pouvoir le traiter, du coup, bon, notamment avec le MDR, parce que c'est un point de rupture, la dissociation. Donc c'est comme si ça mettait une pause dans notre histoire, et on sait que le corps humain, il aime la fluidité, il aime quand ça circule, il n'aime pas trop les ruptures. Donc autant c'est nécessaire quand on vit le trauma, autant par la suite, ben, c'est important souvent d'aller traiter ces émotions-là qui ont conduit à la dissociation pour pouvoir lever ce mécanisme-là. Donc voilà pour les choses majeures, et heureusement tout le monde n'a pas vécu ça. Hein. Ça marche aussi pour les petites choses entre guillemets. Oui. Ça marche, voilà, comme j'ai dit, pour des situations où on s'est senti rejeté, isolé. Ça marche bien sûr les personnes qui vivent des dépressions, les personnes qui vivent des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, c'est quoi ? C'est des émotions qui n'ont pas eu l'espace hein, pour vivre et pour circuler, et qui remontent d'un coup. Parfois, on ne sait même pas pourquoi, on ne voit même pas de déclencheur. En fait, ça remonte d'un coup. Ça veut dire qu'il y a une émotion qui n'a pas été intégrée. Une ou plusieurs. Donc, c'est toujours intéressant d'aller identifier à quel moment en fait, de ma vie j'ai vécu ces émotions qui n'ont pas pu avoir l'espace de circuler pour pouvoir leur permettre de circuler et du coup éviter que ces symptômes perdurent dans le présent. Donc pour les crises d'angoisse, c'est vrai que c'est assez, c'est assez efficace. Donc dépression aussi, addiction, troubles alimentaires. Bien sûr, addiction et troubles alimentaires, c'est des choses qui sont assez complexes en règle générale. Hein. C'est rarement un événement. Oui. Donc il faudra visiter sans doute plusieurs choses, plusieurs espaces au niveau de la vie de ces personnes-là. Mais c'est aussi une thérapie qui marche dans ce secteur. Parce que c'est quoi hein, l'addiction, le trouble alimentaire, c'est aussi une difficulté au niveau émotionnel. Hein. Oui. C'est trop fort à l'intérieur de moi, je ne peux pas gérer. Donc j'ai besoin de quelque chose extérieur en fait pour apaiser cette émotion. Donc ça veut dire qu'il y a trop plein quelque part, qu'on a trop emmagasiné.
C'est ça qui est intéressant aussi. Pour tout ce qui est aussi les périodes de la vie d'une femme, par exemple, comme un accouchement ou comme certaines des violences gynécologiques ou obstétricales, j'imagine que ça peut être aussi intéressant.
Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Pour l'anecdote, j'ai retraité l'accouchement d'une dame qui avait 70 ans, donc qui avait accouché quand même il y a un certain nombre d'années. Oui. Et il y avait une charge émotionnelle énorme. Énorme. Et tout ça, ça avait des conséquences dans sa vie et aussi dans la relation avec sa fille, parce que la rencontre avec sa fille n'avait pas pu se faire de manière optimale. Et donc du coup, il y avait des choses qui étaient encore cristallisées à ce moment-là. Donc c'est hyper important de pouvoir consulter. Bon, elle avait attendu longtemps, c'est ok, hein, elle a fait comme elle a pu. Mais pour toutes les femmes qui peuvent vivre des accouchements qui sont difficiles, qui sont traumatiques, en termes voilà, si le corps a été en danger, que ce soit le corps de la femme ou le bébé, bah forcément il y a des peurs. Donc on peut rester avec ça, hein. Encore une fois, il y a notre processus de guérison, mais quand même aujourd'hui il y a des outils qui nous permettent de nous libérer de ça, et en quelques séances on peut voir quand même un soulagement hyper important. Et quand c'est un premier bébé et qu'il y a d'autres souhaits de bébé, ben ça aide quand même à envisager la suite de manière beaucoup plus sereine. Donc oui, dans la vie d'une femme, ça peut être d'une grande aide, oui.
Complètement. Est-ce que aussi, par exemple, il y a des techniques qui peuvent être faites, par exemple, chez certaines quand elles seraient enceintes, parce que je me dis qu'il y a des fois certaines patientes, moi, qui se rendent compte ou qui ont des appréhensions pour l'accouchement, mais qui en fait sont liées à quelque chose du passé de l'enfance qui n'a jamais été traité, et souvent, des fois, ça arrive qu'elles expriment ce besoin, en tout cas que la peur est tellement grande, tu vois, qu'elles veulent s'en occuper maintenant. Ouais. Enfin, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il vaut mieux attendre après l'accouchement? Enfin, j'imagine que la réponse est plus nuancée que ça, mais...
Alors, on est toujours prudente avec les femmes enceintes, ouais. C'est vrai. Moi, ce que j'ai appris en formation, c'est que si on peut éviter le MDR enceinte, on évite. Si par contre la peur est si intense que vraiment ça peut nuire en effet à l'accouchement, etc., etc., là on y va. Là, on y va, c'est vraiment... Il n'y a pas de réponse toute faite, en effet, il faut évaluer le bénéfice. Il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un risque, objectivement. Hein. Mais on est toujours prudente avec les femmes enceintes, tout simplement parce que, oui, dans la grossesse, il peut y avoir un risque de fausse couche, et on ne veut pas que la personne se dise « Tiens, c'est à cause de l'EMDR qu'il y a eu une fausse couche. » En vérité, bon, voilà... Encore une fois, il n'y a pas forcément de risque, mais on veut éviter ça. Ouais. Donc, en général, bon, moins de 3 mois, moi, je ne fais pas de MDR avec les femmes enceintes, tout simplement parce qu'il n'y a plus de risque de fausse couche pendant les 3 premiers mois. Et ensuite, quand il y a une grossesse en santé, etc., etc., et que je sens que la personne a suffisamment de ressources, en fait, au niveau émotionnel, là, je peux le faire. Parce que c'est ça, hein, qui est hyper important. On ne fait pas de l'EMDR comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je ne fais pas de l'EMDR comme ça. C'est hyper important d'évaluer que la personne a suffisamment de ressources. Tout simplement pourquoi ? Quand on fait de l'EMDR, on peut revisiter du coup des souvenirs qui sont douloureux. Il peut y avoir des séances qui ne sont pas très agréables. Bon, c'est pour la bonne cause, mais il faut le savoir quand même. Et si la personne est trop débordée au niveau émotionnel, si je sens qu'elle n'a pas de ressources pour s'apaiser, je ne vais pas faire de l'EMDR direct. Je vais d'abord travailler ses ressources en termes d'apaisement émotionnel. Et quand ce sera OK, là, ensemble, on va prendre la décision de commencer l'EMDR. Mais ça, c'est important aussi, je pense, de l'entendre, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode aussi l'EMDR. Il y a des gens qui me disent « Bon, je vais faire de l'EMDR, première séance, je dis « Non, ça se passe pas comme ça, en fait. » D'abord, il faut que qu'on apprenne à se connaître et que je vois vos capacités de régulation émotionnelle, que j'apprenne de votre histoire. Et ensuite, en effet, on pourra utiliser la technique. Mais ça passe quand même par une étape au préalable. Moi, je vois vite hein, si la personne a assez de ressources. Et puis après, on peut travailler sur des exercices. Alors, les exercices, ça peut être des relaxations, ça peut être des méditations, ça peut aussi être des mouvements qui apaisent. En fonction de là où est la personne et de ce qui lui parle, je vais piocher dans ma boîte à outils pour trouver quelque chose qui est intéressant pour la personne. Et après, je vais inviter aussi la personne à travailler entre les séances quand même pour être sûre qu'elle peut s'apaiser, donc à refaire des méditations, à refaire des relaxations, pour que je sache que voilà, elle connaît bien l'outil et que ça va être plus efficace. Parce qu'en fin de séance, moi je termine toujours, surtout hein, quand il y a un peu d'intensité émotionnelle, je termine toujours par ou de la relaxation ou un mouvement qui permet de s'apaiser. Voilà, pour pas qu'ils sortent trop activés au niveau émotionnel, c'est important.
Ouais, parce que je peux confirmer, il y a des fois où c'est particulier, quoi. Même au niveau physique, des fois, cette impression d'avoir fait comme si on avait fait un marathon. Enfin, des fois, moi, je me souviens de me dire, heureusement que j'ai pas prévu des consultations après. Parce que physiquement et émotionnellement parlant, je sentais qu'il fallait que j'aille dormir ou me poser. Il fallait pas trop m'en demander aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose à savoir.
Ouais. En général, bon, on dit que ça continue à travailler, hein, que le processus continue entre 2-3 jours après la séance. Pour certains, c'est moins, pour certains, après la séance, c'est tout à fait ok. Mais il faut savoir quand même que ce processus peut continuer, particulièrement pendant la nuit qui suit, vu que c'est la nuit qu'on guérit et qu'on retraite les émotions de la journée. Donc il y a des gens, après les séances de MDR parfois, qui font des super nuits de 12 heures. Il y en a d'autres qui rêvent davantage, du coup qui se réveillent un peu plus. Ça, on peut pas le prévoir. Mais dans l'idéal, en effet, après une séance, si on peut avoir un espace plutôt calme où on peut se reposer, c'est pas mal. Alors j'ai des patientes hein, qui viennent entre midi et deux, qui repartent bosser après, et je suis là, waouh.
Comment elles font? Moi, j'avoue aussi, je me sentirais incapable. Mais c'est là, on est toutes différentes.
Et ouais, du coup, et puis tout dépend du travail qu'on fait. C'est vrai que quand on reçoit des gens, bon, c'est autre chose que un travail de bureau où on peut être un peu plus centré sur soi et c'est ok.
C'est vrai.
Voilà. Bon, mais oui, ça peut ne pas être évident juste après la séance, c'est sûr.
Et est-ce que la technique EMDR, elle est réglementée? Ou est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dire qu'il a fait une formation en EMDR et donner de l'EMDR? Est-ce que tu sais?
Alors, tout dépend des instituts, en fait. Vraiment, l'EMDR, moi, comme je l'ai fait dispenser, du coup, par... moi, c'est une structure qui s'appelle le FPE. Dans cette structure-là, oui, il n'y avait que des médecins et des psychologues, peut-être d'autres professionnels de santé, mais en tout cas, c'était réglementé. Après, bon, comme dans toutes les techniques, il y a d'autres instituts qui forment. Alors, parfois, ils disent à l'EMDR, mais normal, c'est pas de l'EMDR, c'est des stimulations alternées, en fait.
Okay.
L'EMDR, c'est des stimulations alternées, mais c'est aussi tout ce corpus théorique, toute cette vision du trauma, du réseau traumatique qui est lié et qui va nous aider à aiguiller les séances. Voilà. Il y a d'autres instituts qui forment aux stimulations alternées. Bon, après, je les connais pas, donc je peux pas évaluer de leur pertinence. Mais quand même... je pense que c'est bien quand on pratique cette technique d'être formé au trauma, d'avoir quand même des connaissances aussi en psychopathologie parce qu'on ne fait pas le MDR sur tout le monde. Comme j'ai dit, il faut avoir assez de ressources et voilà, c'est ça, je pense, le point important où il faut être vigilant.
Bien sûr, c'est un peu pour ça que je pose la question aussi, parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est vachement à la mode en ce moment. Donc ce qui est bien quand c'est à la mode, c'est qu'on en entend parler, mais des fois aussi il peut y avoir certaines dérives du coup de personnes qui peuvent se former et qui pour moi n'auraient peut-être pas des fois le bagage suffisant pour pouvoir accompagner certaines personnes, parce que quand on va travailler sur ces émotions là, en fait on sait, enfin faut pouvoir être capable d'accompagner la personne de A à Z. En tout cas, c'est mon avis. Et je trouve que des fois, c'est tellement à la mode qu'il y en a qui du coup, c'est pas qui en profitent, mais qui en tout cas veulent tellement aider les gens. Souvent, ils le font d'un bon parti pris, mais en fait, qui se rendent pas compte aussi qu'ils ont eux-mêmes des limites et qu'en fait, il faut être très conscient pour moi de ces limites. Et même là, je vais faire le parallèle, mais je trouve que aussi, des fois, tous les thérapeutes, que ce soit kiné, infirmière, sage-femme, enfin, tout le monde, en fait, qui est en contact avec des personnes, en fait, souvent, n'ont des fois jamais travaillé vraiment sur eux et n'arrivent pas, du coup, justement, à connaître leurs propres émotions. Des fois, sont activés par certains discours ou certains comportements de patients. Et du coup, je me dis, c'est fou qu'on soit pas... enfin, je sais pas si vous, en tant que psy, vous êtes obligé de faire... comment vous l'appelez? Je sais jamais...
Supervision.
Mmh. Je sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais je trouve ça très cool que vous ayez ça dans votre corps de métier.
Mmh. Oui, alors, il n'y a pas d'obligation en termes... il n'y a pas quelqu'un qui va taper à notre porte si on n'est pas supervisé. Hein. Mais par contre, c'est vivement conseillé. Et je te rejoins sur l'importance, en fait, de nous-mêmes être accompagnés, que ce soit professionnel de santé réglementé ou thérapeute. On a tous une histoire, tous des bagages. Et si on n'est pas au clair avec tout ça, si on n'arrive pas à observer ce qui nous active chez l'autre, et si nous-mêmes, on ne va pas libérer nos émotions, il est clair que ça rend service à personne, hein, ni aux patients, ni à nous-mêmes, d'ailleurs. Donc, c'est important ce que tu dis au sujet des limites. On en a tous. Et en effet, quand on est dans le soin, on peut avoir un peu ce syndrome du sauveur, hein, dont je parle souvent avec mes patients d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment un chemin de comprendre que non, d'ailleurs, on va sauver personne, qu'on va les accompagner au mieux, mais qu'il y a nos limites. Il y a nos limites et aussi dans les personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire que on peut pas, je pense, accompagner forcément tout le monde tout le temps. Voilà. en fonction de comment on est, de notre histoire, etc., etc. Et ça, ça demande vraiment une connaissance de soi. Et ça peut bouger, hein. Ouais. On peut accueillir certaines personnes à un certain moment de notre vie et puis d'autres plus tard, quoi. Ça, tout bouge, hein. De toute façon, l'être humain, il est en constante évolution, donc tout bouge. Mais c'est important d'en avoir conscience et d'être supervisé. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais, bien sûr, et qui est hyper riche pour moi.
Et pour donner un petit aspect pratico-pratique, moi, je sais que j'avais été confrontée au fait que j'avais une maman qui m'avait emmené sa fille, qui avait des problèmes d'énurésie, donc de pipi la nuit, etc. Et j'avais accepté parce qu'à l'époque, j'avais cherché, j'avais trouvé aucun kiné spécialisé ici aux alentours en pédiatrie. Et donc je me disais, bon ben mince, en fait, on va pas laisser comme ça, on va essayer de voir. Finalement, je m'étais renseignée. Et en fait, en creusant un peu, ben, on s'était rendu compte qu'il y avait un contexte traumatique derrière avec des abus. Mmh. Et en fait, moi, ça m'avait tellement remué parce que ben, je connaissais déjà bien la maman, je connais une partie de la famille aussi. Et du coup, en fait, ça m'avait mise dans une position qui m'était inconfortable à souhait. Et puis ça me mettait face à une réalité à laquelle j'avais pas toujours envie d'être confrontée, en tout cas encore plus quand c'était un enfant. Ouais. Et en l'ayant travaillé après du coup avec ma psy, je m'étais rendu compte qu'en fait c'est quelque chose dans laquelle je me sentais pas bien et que je pense qu'en fait aujourd'hui je ne suis pas faite pour accompagner des enfants en rééducation périnéale. Peut-être que ça changera un jour, mais aujourd'hui je pense que je suis pas bonne en plus là-dessus parce que j'arrive pas à dealer entre mes émotions et du coup, enfin, et c'était trop compliqué. J'étais là, waouh! Alors que quand c'est une femme déjà majeure, on va dire, avec qui on peut déjà plus facilement échanger aussi, que des fois on parle d'abus, ben je me sens déjà mieux dans ma posture pour pouvoir les accompagner. Mmh. Même si je sais que j'ai aussi des limites et j'hésite pas à les exprimer quand elles sont atteintes parce que, comme tu disais, ça sert personne en fait finalement.
Ouais, exactement. Enfin, c'est ce que je disais. On a chacun notre domaine de compétences et il évolue, ce domaine de compétences, mais c'est important d'en avoir conscience. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je reçois pas les enfants, parce que pour moi, il faut vraiment avoir une approche systémique, parce que les difficultés des enfants, ben, forcément, elles sont liées aussi à une dynamique familiale, etc., etc. Et bon, voilà, moi, je le sens pas pour le moment, en tout cas. Donc, je préfère orienter vers des gens pour qui il y a vraiment cet élan vers la thérapie familiale, etc., etc.
Et t'as parlé du syndrome du sauveur, c'est quoi exactement? Je te dis ça parce que ce podcast est quand même vachement écouté par plein de professionnels de santé et je sais qu'il y a beaucoup de mes consoeurs et confrères qui écoutent aussi. Et je pense que pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce syndrome du sauveur, je pense que c'est important dans cet épisode d'en entendre un peu parler.
Ouais. Alors quand je parle du syndrome du sauveur, je parle souvent d'un monsieur qui s'appelle Kapfman, qui a mis en place, enfin théorisé le fameux triangle où il a placé le sauveur, la victime et le bourreau. Pour Kapfman, en fait, il y a interaction entre ces trois rôles. Alors, on va, en fonction de notre histoire, privilégier une de ces places-là. Mais bien sûr, on peut, dans notre vie, être à la fois victime, sauveur et bourreau. Alors, quand je dis bourreau, pas forcément séquestrer quelqu'un pour être bourreau. Être bourreau, c'est voilà, pouvoir faire du mal aux gens, etc., etc. Et donc, il a théorisé ce triangle-là en disant que c'est toujours important déjà de prendre conscience de à quelle place, en fait, je vais spontanément dans mes relations, notamment avec certaines personnes parfois qui sont proches ou moins proches. Et d'avoir conscience de cette place, ça permet aussi de faire un pas de côté. Parce qu'on peut pas, comme je disais, sauver les gens, et le problème d'être dans cette place du sauveur, c'est que en fait on laisse la place aussi à la victime dans le fait qu'elle reste dans cette place là. Il y a aucun souci d'être victime, et il y a des gens qui vont vraiment être victimes et c'est important d'être reconnu dans ce statut là, mais il y a des gens qui restent dans ce positionnement là toute leur vie et du coup qui subissent aussi leur vie et qui attendent que les réponses viennent de l'extérieur. Et donc ils attendent un sauveur, sauf que comme le sauveur il n'existe pas, bah, ils restent dans ce statut de victime et ça empêche d'être vraiment maître et acteur de sa vie. Donc sur le long terme, c'est pas forcément positif. Donc si moi je reste dans ce positionnement de sauveur, l'autre va rester dans ce positionnement de victime, donc il n'y a rien qui va bouger.
Donc finalement ça sert personne.
Exactement.
Est-ce que t'as un exemple concret?
Bah, c'est ce qu'on peut vivre parfois dans nos relations. bon, amicale par exemple, où il y a des gens hein, qui sont beaucoup dans la plainte, et comme on aime cette personne-là, on peut avoir envie d'être là tout le temps et de trouver des solutions en fait. D'être là pour l'autre et pour les personnes qu'on aime, c'est tout à fait ok, heureusement, hein. Heureusement qu'il y a cette empathie, mais c'est différent d'être là pour l'autre, l'écouter profondément, la reconnaître dans ce qu'elle vit, et de dire oui mais t'as pensé à faire ça et tu sais qu'il y a ça qui peut enfin qui peut t'aider peut-être et moi si j'étais toi je ferais ça donc là on n'est plus dans l'écoute et dans l'accueil inconditionnel de l'autre, on est dans la recherche de solutions pour l'autre, donc on va lui trouver des solutions mais du coup on l'empêche aussi de trouver des solutions elle-même. Alors on peut hein, mais avec l'accord de la personne.
Ça fait vachement penser au cercle de femmes, au rêve qu'il y a dans les cercles de femmes de justement essayer d'écouter en fait et de pas forcément réagir à ce que la personne a dit à part sur ce que ça nous a fait à l'intérieur de nous. Et je sais plus si t'étais... Enfin, il y avait un cercle de femmes où je me souviens de dire à Luna, donc Luna de la Maison de la Femme, je veux dire c'est quand même fou de devoir payer même si c'est à tarif libre pour... En fait, juste que je sois écoutée sans avoir de conseils non demandés. Et j'avais eu ce jour-là, mais en me disant, c'est quand même un truc de malade, quoi. Enfin, normalement, ça devrait être la norme. Et ça aussi, je trouve que c'est pas encore assez, assez normalisé. De juste, des fois, les gens veulent bien faire en donnant plein de conseils, alors qu'en fait, des fois, c'est pas ce que la personne, elle demande. Et souvent, elle demande juste à être écoutée. Et reconnue dans ce qu'elle vit.
C'est exactement ça. Souvent, l'intention, elle est bonne, hein, vraiment. Hein, je dis ça sans jugement, parce que moi aussi, je peux le faire parfois. Mais quand on fait ça, on n'accueille pas l'autre dans ce qu'il vit. Et ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur l'émotion, qui, pour pouvoir circuler, a besoin d'être vue, entendue et reconnue. Quand je fais ça, ou quand je dis ça va aller, mais non, mais ça va aller, t'inquiète pas, tu fais des films, ça va aller. Oui, mais en fait, quand je dis ça, je reconnais pas l'autre dans sa peur, dans son inquiétude. Donc, je dénie son émotion. Donc, son émotion, elle est pas reconnue et elle peut pas être pleinement circulée. Elle peut pas pleinement circuler.
Et ça me fait penser à ma dernière formation. Bon, de base, c'était sur l'endométriose, mais on a vachement parlé de tout ce qui se passait au niveau somato-émotionnel et de justement un enfant qui vient de tomber. Quand on lui dit qu'il pleure parce qu'il a mal, lui dire c'est pas grave, en fait c'est un peu lui faire croire qu'en fait là sa douleur elle est pas reconnue et en fait peut-être que sa douleur elle est physique mais qu'à la fois peut-être que sa douleur elle est due à la peur qu'il est tombé ou à l'échec d'être tombé, enfin on sait pas, et du coup dire c'est pas grave c'est mettre une chape de plomb dessus en disant tes émotions ont pas lieu d'être soit entendues, reconnues, et du coup c'était vachement intéressant parce que ça avait fait pas mal réagir quand le formateur avait commencé à parler de ça et moi je me disais je trouvais ça normal, mais parce que je l'ai bossé en thérapie, et du coup maintenant, ça viendrait peut-être quand même, tu vois, de dire par exemple à mon filleul, c'est pas grave, et après je me corrigerai de suite en disant, ah non, je vois, t'es tombée, t'as eu peur, parce que j'ai été éduquée quand même un peu comme ça, mais je voyais que sur les 30 thérapeutes qui étaient là, waouh, ça, enfin, après, c'était compliqué, quoi.
Et c'est nos conditionnements, en fait, parce qu'à nous, en règle générale, on nous a dit ça.
Oui.
Donc forcément, comme on est fait d'apprentissage, c'est nos automatismes de dire ça. Et moi, la première, hein, je suis complètement consciente, j'ai complètement conscience de tout ce que tu dis, je l'ai lu plusieurs fois, etc. Et j'essaie de pas le faire, mais parfois ça sort. Bon, voilà, c'est l'idée, c'est pas de se juger. On fait tous comme on peut, mais c'est important d'en prendre conscience.
Complètement.
Ouais.
C'est exactement ce que je disais hier à une patiente qui a entre guillemets un mauvais comportement avec sa vessie et qui du coup, en fait, ça va mieux depuis qu'on a fait certaines séances, mais tu vois, on n'a pas les effets escomptés. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même une grande part qui était due en fait, à son comportement, et son comportement qu'elle fait depuis vraiment des années. Et elle s'est assise sur cette chaise en me disant « Oui, mais de toute façon, c'est ma faute. » Enfin, tu sais, en se culpabilisant et en s'auto-flagellant. Et je lui disais « Mais attendez, déjà, avant qu'on se soit vu, vous n'en étiez pas consciente de tout ça. Là, aujourd'hui, vous en êtes consciente. Donc maintenant, c'est juste une question de choix, entre guillemets, de quelle voie vous voulez choisir, en fait. Et au départ, ça va être difficile parce que c'est le temps, en fait, que vous puissiez vous y habituer. Une habitude, ça ne change pas comme ça en claquant des doigts. Sinon, on arriverait tous à changer plein d'habitudes. Mais tu vois, c'était particulier parce que, en fait, vraiment, elle se culpabilisait de ouf. Alors que pour moi, c'était vachement contre-productif de chercher à se culpabiliser. Déjà, elle en était consciente, quoi. Mmh. Et au final, c'est déjà énorme de conscientiser ça, quoi.
Ouais. Et tu vois, ce que tu dis, c'est important, parce que je fais le lien avec ce qu'on disait sur le MDR. La culpabilité, elle est là. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a apprise.
Oui.
En effet d'apprentissage. Sans doute que... Bon, je la connais pas, mais cette personne-là, elle a vécu des situations où elle a appris que c'était sa faute. Mmh. Ou peut-être qu'on lui a dit qu'elle faisait pas bien, etc., etc. Mmh. Toutes nos réactions, en fait, elles sont liées à notre histoire.
Et c'est là où c'est vachement intéressant d'aller voir, en fait, comment est-ce que notre enfance a été teintée de, justement, est-ce qu'il y a plus de culpabilité ou autre, en fait.
Ouais.
C'est fascinant.
Ouais. Et puis, c'est un chemin qui est vraiment hyper riche parce que, ben, parfois, ça se limite pas à l'enfance, en fait. Et moi, j'ai un regard aussi en transgénérationnel et je vais souvent voir plus haut parce que la culpabilité, oui, peut-être qu'on lui a dit certaines choses pendant son enfance, mais peut-être que sa mère, elle a vécu des choses qui ont installé cette culpabilité. Peut-être que sa grand-mère, déjà, elle avait vécu cette culpabilité pour X et Y raisons. Donc, c'est toujours aussi important d'aller voir plus haut. Est-ce que cet apprentissage-là, mais en fait, il n'est pas là depuis des générations en générations? Et comme on a tous, au niveau familial, comme une espèce de loyauté, et si on fait différemment, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais plus partie de la famille, etc.? Je fais plus partie du clan, donc aïe aïe aïe, en général on n'aime pas trop ça. Donc de pouvoir s'autoriser en fait à libérer certains fardeaux que portaient nos ancêtres, c'est tout un chemin aussi de libération qui peut être hyper puissant et hyper beau.
Et du coup, justement, ça me fait penser, tu vois, là, on a parlé transgénérationnel, mais comment ça se fait que quelque chose qu'aurait vécu notre grand-mère et notre mère puisse nous impacter? Parce que ça, je pense qu'il y a plein de gens, pareil, qui n'en sont pas conscients.
Alors, l'épigénétique nous montre que quand on vit des traumas, ça peut changer quelque chose au niveau de l'expression de l'ADN. Donc maintenant, c'est observable. C'est des choses qu'on voyait en thérapie, mais qu'avant, la science n'expliquait pas. Maintenant, c'est observable. Donc bah, forcément, quand il y a des enfants, vu qu'il y a cette transmission au niveau de l'ADN, on porte aussi un certain trauma qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents. Alors, on porte pas tout, hein, c'est important.
Heureusement.
Heureusement. Et je pense que de génération en génération, en fait, il y a un allègement. Et c'est ça qui est beau, hein, aussi. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper chouette de pouvoir travailler sur soi, c'est que pour les personnes qui ont des enfants ou qui vont avoir des enfants, mais ça permet aussi une libération pour les générations futures. Donc voilà comment ça s'explique, en tout cas au niveau scientifique. Et après, il y a tout ce que l'enfant observe, forcément, hein, vraiment aussi du comportement de ses parents, et du coup va intégrer. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut pas faire ça? Est-ce que c'est de ma faute ou pas? Ça aussi, ben voilà, on va pas évoluer de la même façon en fonction des blessures de nos parents. Ça c'est clair.
Et du coup, par rapport à tout ça, là, on a beaucoup parlé de tout ce qui était EMDR, mais comme tu as dit, tu as une boîte à outils aussi, tu as d'autres outils. Tu t'es formée aussi à l'AIT, on est d'accord?
Ouais,
c'est quoi l'AIT? Parce que ça, c'est moins connu.
Ouais, c'est très peu connu en France pour le moment, beaucoup aux États-Unis, alors ça commence à arriver en France. Alors, c'est une technique de psychologie énergétique qui consiste à utiliser nos centres émotionnels pour libérer du coup des traumas, des situations qui ont été douloureuses et travailler aussi voilà, notre perception. Nos centres émotionnels, c'est quoi? Alors en Asie, ils appellent ça les chakras, hein, donc c'est un peu plus connu sous ce nom-là. C'est des centres, en fait, le long de la colonne vertébrale, alors du sommet de la tête jusqu'à la base du périnée, on a plusieurs centres où se logent, en fait, plus facilement certaines émotions. Pour être en bonne santé, à la fois physique et psychique, l'idée, c'est que ces centres, ils fonctionnent, en fait, hein, que l'énergie a pu circuler dans tout ça. Sauf que ben, nos blessures peuvent faire qu'il y a des centres qui marchent très très fort ou pas assez. Et l'idée, c'est de pouvoir retrouver de l'équilibre. Donc comment on fait? En fait, on utilise simplement nos mains. Donc moi, je le fais sur moi et j'accompagne la personne le fait sur elle, en travaillant en fait sur des phrases. Au niveau de la vision théorique du trauma, ça se rapproche quand même beaucoup de l'EMDR avec cette idée qu'on vit des choses qui laissent des traces émotionnelles et qui du coup ben, sont gardées à l'intérieur du corps, qui sont réactivées dans le présent. Donc du coup on va identifier ce qu'on appelle les traumas d'origine, donc les souvenirs à l'origine de nos difficultés actuelles. On va identifier nos difficultés dans le présent et on va pouvoir en fait faire des phrases en lien avec ça, donc des phrases assez courtes, qu'on va répéter en même temps qu'on met la main sur nos centres émotionnels. Et tout ça va permettre à la fois d'activer le centre émotionnel, à la fois de se connecter du coup à la mémoire traumatique, et on va permettre du coup à cette mémoire de circuler à l'intérieur de nous. Et encore une fois, c'est ça qu'on cherche avec les émotions, parce qu'une émotion, c'est pas grave si ça circule, c'est compliqué si ça stagne et si ça se cristallise à l'intérieur du corps. Et ce qu'on observe au fur et à mesure du coup de répéter ces phrases en lien avec nos centres émotionnels, bah la charge émotionnelle en fait diminue petit à petit.
Trop bien. Et est-ce que c'est quelque chose après que tes patientes peuvent refaire, réutiliser, j'imagine, la même phrase, si jamais ça vient à réactiver aussi?
Ouais, tout à fait. C'est ce que j'aime bien donc avec l'AIT et l'EFT, hein, c'est une autre technique de psychologie énergétique, c'est que les patients ensuite peuvent l'utiliser. Donc moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que mon but, c'est rendre les gens autonomes en fait. Hein. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent repartir aussi avec des outils pour pouvoir faire circuler leurs émotions entre les séances. Donc bon, je déconseille quand même d'aller traiter des traumas du passé tout seul. Bon, oui. Il y en a qui le font, hein, mais à mon sens, c'est bien quand même d'être accompagné. Mais par contre, quand on est déclenché par quelque chose dans le présent, oui, bien sûr, on peut utiliser ces techniques-là pour faire circuler les émotions. Du coup, en général, je leur fais un petit schéma à mes patients avec le corps, les centres, pour qu'ils puissent refaire ensuite à la maison de manière autonome.
Trop bien. Et ça, du coup, ça peut être utilisé soit en parallèle avec le MDR ou soit que l'AIT tout seul, on est d'accord. C'est une technique à part.
Oui, c'est ça. En fait, toutes ces techniques, il y a des gens qui, parfois, qui choisissent une technique et du coup, qui font que ça pendant toutes les séances. Moi, comme j'adore apprendre et j'adore explorer de nouvelles choses, c'est pas ma vision. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu me former à plusieurs techniques. Donc, ensuite, je choisis les techniques en fonction donc de la demande de la personne et puis aussi de ce que je ressens en fait être juste pour le moment. En fonction de ce qu'on choisit de travailler, c'est vrai que parfois je vais choisir le MDR, parfois je vais choisir l'AIT, parfois je vais choisir le EFT, et en fonction des ressources aussi de la personne. C'est vrai que quand la personne, je sens quand même assez fragile, je vais pas forcément commencer direct par le MDR. Je peux commencer par le EFT et l'AIT pour que déjà cette personne elle puisse entre les séances faire circuler les émotions, pour qu'elle ait des outils en fait. Et ensuite, après, parfois, basculer sur le MDR. Voilà, c'est du coup humain, séance par séance. J'essaie de m'adapter au maximum.
Mais c'est ça qui est beau aussi, tu vois. C'est que c'est un truc vraiment... C'est pas un programme qu'on pourrait lancer et que tout le monde irait mieux avec ce programme-là, en fait. C'est vraiment du cas par cas et du coup humain, comme tu dis, quoi. Donc moi, c'est ça que je trouve beau. Et du coup, c'est quoi la différence avec l'AIT et l'EFT?
Alors l'EFT, c'est un peu plus connu en France. Donc l'EFT, c'est aussi une technique de psychologie énergétique, mais qui utilise nos méridiens, notamment les méridiens en fait d'acupuncture. Hein, pour les personnes qui en ont déjà fait, en acupuncture, on va mettre des aiguilles sur des points où se loge l'énergie et où l'énergie peut rester bloquée. En fait, en EFT, en fait, on va tapoter sur ces points-là, donc toujours pareil, moi je le fais sur moi et la personne sur elle, en parlant du coup du souvenir de la situation qui est douloureuse. Le fait de tapoter sur ces points-là, ça aide le système nerveux à se relancer et du coup à faire circuler l'émotion qui est restée coincée.
Ah, c'est beau parce que je trouve que c'est quand même toujours une notion de circulation en fait. Donc c'est beau.
C'est ça, c'est amener du mouvement en fait dans les émotions. Ouais. Il n'y a que ça.
Mais je crois que ce sont mouvement, enfin moi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même l'extrême majorité des thérapies qui sont en fait liées au mouvement. Que ce soit autant en fait une pratique physique, sportive, qui en fait c'est du mouvement, une respiration, peut-être on va parler après aussi, bah, du coup c'est du mouvement, un massage finalement c'est du mouvement aussi. Enfin, en fait je me dis, mais tout est mouvement en fait.
Ouais, exactement.
Après, je suis pas objective en tant qu'kiné, je pense que pour moi le mouvement c'est vraiment la vie, mais je me dis c'est fou en fait. C'est à chaque fois le truc qui revient tout le temps.
Et en tant que prof de yoga aussi, oui. Parce que le yoga, c'est quoi? C'est exactement ça. On fait circuler l'énergie, en fait, grâce au mouvement.
Et c'est exactement ça. Et justement, j'ai fait un cours de Kundalini dans un festival de yoga. Et waouh! Et je me disais, qu'est-ce que le Kundalini, ça brasse, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est puissant, en fait. On pense que le Kundalini, c'est tout tranquille. Pas du tout, en fait. Et à la fois, c'était vachement intéressant. Je me disais que c'est pareil dans le yoga, en fait. Il y a différents courants et qu'il y a différentes... pratique en fonction de ce que les personnes recherchent, et c'est beau aussi, quoi. Et moi je suis trop fascinée de voir à quel point on a plein d'outils dans notre vie et que c'est cool parce qu'en fait il y en a qui vont parler plus à certains moments de vie, d'autres à certaines personnes, et c'est bien. Est-ce que justement tu as d'autres techniques encore que tu peux utiliser en psychothérapie? Parce qu'après j'aimerais même parler de la formation que tu es en train de faire. Ouais.
Alors, j'utilise parfois aussi de la méditation de pleine conscience. Oui. Bon, ça, c'est une des premières formations que j'ai faites. Donc, c'est vrai que j'ai ça en tête et j'invite les gens à pratiquer. Bon, en ce moment, je fais plus forcément de séances parce que là, j'explore une autre sorte de méditation, mais qui est plutôt active, hein, qui est le breathwork. Donc là, en ce moment, c'est vraiment ça que j'explore. Je peux en parler peut-être.
Ah ouais, vas-y, c'est quoi le breathwork?
Ouais, parce qu'on en entend de plus en plus parler et il n'y a pas un breathwork, en fait, il y a des breathwork. Le breathwork, c'est quoi? C'est le travail du souffle, en fait. Hein. C'est le fait d'amener notre conscience sur notre respiration de manière à la modifier et à atteindre certains objectifs. Les objectifs, ils peuvent être au niveau de la santé physique parce qu'on va amener, en fait, beaucoup d'oxygène au niveau du corps. Donc, on sait que ça participe à la circulation et du coup ça aide aussi le système immunitaire à être fort. Il y a aussi des effets au niveau émotionnel, bien sûr, parce qu'en sens de breathwork, on peut libérer du coup des émotions qui parfois sont importantes. Il y a aussi un effet sur le mental, donc sur notre perception des choses, parce que vu qu'on va libérer au niveau émotionnel, bah forcément notre esprit peut s'ouvrir à d'autres perceptions de soi, mais aussi des autres et de l'univers. Et il peut y avoir aussi un effet au niveau spirituel, on va dire. Il y a certaines personnes qui expérimentent en breathwork des états vraiment modifiés de conscience et du coup une conscience, on va dire, un peu plus élargie du monde, de l'univers, etc., etc. Donc c'est vrai que certaines personnes qui reçoivent des messages. On est dans un autre état où le mental peut lâcher et ça fait du bien.
Tu m'étonnes. En tout cas, ça donne trop envie parce que ça a l'air tellement intéressant aussi. Parce que c'est pareil, je trouve que le souffle, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout utilisé alors qu'en fait, c'est gratuit. Ouais. Ça te coûte rien, tu l'as déjà. Et au final, il y a tellement d'outils avec ça, donc c'est impressionnant.
Et c'est vrai que le souffle, en fait, si on regarde un petit peu dans le monde, dans les anciennes traditions, ça a toujours été utilisé comme un outil, en fait. Hein. Que ce soit en Chine, dans le Tao, que ce soit en Inde, bah, avec le prana.
C'est ça.
Le souffle a toujours été, en fait, lié avec cette énergie de vie, dans toutes ces traditions. Donc c'est pas juste la respiration, c'est vraiment cette conscience de soi, des autres et de cette énergie qui circule à l'intérieur de nous.
Et c'est ça qui est beau aussi, tu vois, parce que comme tu disais, bah, t'as tous les exercices de respiration, en tout cas là surtout au niveau du yoga, mais moi ça me fait penser aussi à tout ce qui est au niveau du chant aussi, parce que finalement le chant, qu'il soit lié à une religion ou pas en fait, ou juste à un mantra, en fait c'est une mobilisation du souffle aussi en fait. Et c'est un autre mouvement, mais qui est aussi intéressant. Donc c'est cool. Et après, est-ce que tu as une idée de comment est-ce que tu vas rajouter du coup le breathwork dans ta pratique? Est-ce que tu as prévu de potentiellement l'utiliser dans tes consultations? Peut-être sûrement, voire même en dehors.
Ouais, alors je pense que je vais l'utiliser en consultation. Ce sera vraiment un type de consultation spécifique, par contre, parce que la séance sera plus longue, donc j'aurai besoin vraiment d'une heure et demie. Donc du coup, ce sera voilà, une consultation spécifique. Et ensuite, je compte proposer des groupes aussi de breathwork, donc à la Maison de la Femme. Ce sera pas pour tout de suite, hein, parce que j'ai choisi une formation qui est longue et complète, donc je suis très heureuse. Donc je me forme avec Lucille Fock de Alive Breathwork, qui est vraiment orientée aussi trauma, libération émotionnelle. Donc par rapport à moi, ma lecture et ma pratique, elle faisait sens. Et c'est une formation en fait où on pratique beaucoup nous. Et je pense que c'est hyper important pour pouvoir accompagner les gens, que nous-mêmes on ait expérimenté en fait les choses. Donc c'est une formation de 6 mois, donc assez dense, où on va vraiment, en tout cas dans ce type de breathwork, il y a une vision aussi de rééducation du souffle. C'est-à-dire que quand on va vivre des choses difficiles au niveau émotionnel, on a tendance en fait à retenir le souffle, à faire et par exemple un animal sauvage dans la forêt, s'il est en danger, il va arrêter de respirer parce que la respiration c'est ce mouvement de vie, donc si l'autre voit que je suis en vie, il peut y avoir un danger. Et nous, même si on vit pas, enfin la plupart de nous ne vivons pas des dangers comme cela, mais on peut vivre des situations qui nous font peur ou qui sont difficiles, et on peut avoir intégré la notion de il faut que je retienne ma respiration parce que sinon je peux être vue, et si je suis vue, il y a un risque. Le risque, il peut être du rejet, il peut être plein de choses. Hein. Donc, à force de pratiquer en fait cette respiration qui est connectée, alors dans le breathwork que j'apprends actuellement, on va connecter en fait l'inspire et l'expire.
Okay.
Il y a une mini pause hein, en général quand on respire, entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire. On va supprimer cette pause là pour connecter l'inspire et l'expire, l'expire et l'inspire. Et on va apprendre à prendre des grandes inspires pour vraiment mobiliser le ventre et la cage thoracique, avec cette idée de quand j'inspire, en fait, je suis vraiment actrice. Pour faire ce parallèle, en fait, parce que alors on dit que la façon dont on respire, c'est la façon dont on vit. Donc plus je vais apprendre à prendre des grandes inspires, à être actrice de ma vie, à décider, etc., etc., ben plus il peut y avoir aussi des conséquences dans ma vie. Et à l'expire, en fait, on va juste expirer comme un soupir. À l'inspire, on est acteur, on agit, et à l'expire, on lâche prise, on laisse la vie faire, on laisse le flow. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois je suis là, je suis présente, je prends des décisions, mais je laisse la vie faire, en fait, donc je lâche aussi le contrôle. Et on va connecter. Et le fait de connecter en fait l'inspire et l'expire, ça va aider à reconnecter avec des émotions qui ont été du coup cristallisées dans ces moments où on a retenu la respiration. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des libérations émotionnelles qui sont hyper riches pendant les séances. Et on met du mouvement pour revenir avec cette idée-là. Hein.
Ouais.
En fait, on fait circuler. Et il peut y avoir des sensations physiques hyper importante, alors parfois ça peut faire un peu peur parce qu'il peut y avoir même il peut y avoir des fourmillements, des choses comme ça, et parfois il peut y avoir vraiment de la tétanie aussi au niveau des bras, etc. Alors faut vraiment se rassurer sur le fait que ça passe, il n'y a personne qui est resté bloqué en tétanie, on parle d'une séance de breathwork, ça n'existe pas. Mais la tétanie, c'est quoi hein? C'est une contraction au niveau musculaire. Et ça fait écho aussi hein, voilà, à des contractions qu'on a pu avoir dans notre vie. Et souvent quand on est un peu en force aussi dans la vie, on peut avoir pas mal de tétanie par la séance de breathwork. Et pour pouvoir relâcher, bah, parfois il faut d'abord expérimenter la contraction pour pouvoir relâcher. Voilà pour le breathwork, mais en tout cas c'est hyper riche et moi j'adore apprendre cette technique et l'explorer pour moi, et j'ai hâte de pouvoir la proposer aux personnes que j'accompagne, aux personnes qui sont intéressées.
Ah, moi j'ai trop hâte que tu fasses les ateliers de groupe et que je puisse venir, parce que c'est, enfin je pense que c'est vraiment un outil pareil que moi j'ai jamais exploré mais qui m'attire trop, mais je sais que j'attendais aussi de trouver quelqu'un avec qui ça allait matcher, tu vois, avec qui j'avais vraiment envie aussi de faire ce travail là. C'est vrai que on commence à en parler de plus en plus, nous ici il y a quand même des personnes qui en proposent, mais j'ai jamais eu, tu vois, l'appel vraiment avec quelqu'un en particulier. Et comme je disais en off tout à l'heure, juste avant qu'on allume le micro, justement j'ai eu pas mal d'élèves dans mon cours de yoga qui me demandaient, ah j'ai entendu parler du breathwork, ça m'attire, tu connais pas quelqu'un? Je me souviens de leur dire non, et après de savoir que tu faisais la formation et dire si, bientôt il y aura Marina, donc si vous voulez on fera ensemble. Mais c'est, enfin je pense que c'est un chouette outil, donc pourquoi pas être curieux et curieuse et aller expérimenter et voir ce que ça donne quoi. Parce qu'après j'imagine qu'au fur et à mesure quand tu pratiques, c'est un peu peut-être comme le yoga et que après tu peux réussir à le pratiquer toi-même à la maison.
Oui, oui, exactement. Alors c'est sûr, c'est plus facile quand on est guidé pour maintenir l'attention. Hein. Mais après, oui, on peut le faire tout seul. On peut le faire pas forcément une heure. Hein. On peut le faire aussi pendant quelques minutes. Surtout quand on ressent des émotions. C'est vrai que, comme je te disais en off tout à l'heure, moi, en thérapie, parfois, je sortais de là, ça allait mieux. J'avais libéré des choses, mais je sentais que j'avais encore une sensation physique. Mais en fait, j'utilisais le breathwork pendant une heure et ça me permettait vraiment de faire circuler complètement ce qui restait là à l'intérieur de moi au niveau émotionnel. Et après, c'était ok en fait.
Et c'est ça qui est beau. En plus, c'est surtout ça que j'adore aussi avec toi, c'est ce fait que tu recherches toujours d'autres outils, qu'en fait, tu viens remplir ta boîte à outils. Enfin, c'est assez passionnant aussi. Et ça, je pense que ça peut rassurer plein de monde de la vision qu'ils peuvent se faire d'une psy, quoi.
Ouais. Alors moi, enfin le travail sur soi, pour moi, c'est une passion, hein, vraiment. Hein, donc j'adore explorer les chemins de guérison. Et pour moi, ils sont vraiment multiples. Et c'est vrai que j'ai cette ouverture d'esprit qui fait que j'ai pas d'idées préconçues. Je dis pas que mes techniques, c'est les meilleures et que les autres, ils sont nuls, en fait. Pas du tout. Parce que pour moi, il y a vraiment plein de chemins de guérison. Il y a plein de thérapeutes qui sont super. L'idée, c'est de trouver la personne qui nous correspond au moment T. Et ça peut changer aussi. On peut convenir à une personne et puis après, c'est une autre. C'est ok, il faut s'autoriser aussi, je pense, le droit de changer de thérapeute quand on sent qu'il y a autre chose parce qu'on évolue. Et donc, du coup, l'idée, c'est de trouver des gens qui nous correspondent vraiment au moment et au stade de notre évolution. Et c'est pour ça que pour moi, la pratique est hyper importante. C'est qu'on ne peut pas amener quelqu'un à un endroit si nous-mêmes, on ne l'a pas forcément exploré. Alors, on n'a pas besoin de vivre ce que vivent les choses, mais en tout cas, cet état voilà, d'accueil de l'émotion, de circulation, etc. Pour moi, si nous, on ne l'a pas expérimenté, c'est compliqué d'amener les gens. Donc,
complètement.
C'est un chemin, en fait. Et alors, pour certains, ça décourage parce qu'ils disent « Non, mais moi, je veux que ça dure quelques séances et puis c'est fini. » Pour moi, c'est jamais fini, en fait, mais c'est ma vision des choses. Après, par contre, on n'est pas obligé de rester en thérapie pendant des années, mais expérimenter les outils qui nous appellent. Par contre, il est clair que même si c'est un chemin, le sac à dos, il est beaucoup moins lourd quand même.
Complètement.
Donc, au bout de quelques séances, peut-être que le chemin n'est pas terminé, mais il est moins difficile, le chemin. Ouais. Donc,
Et des fois, le reste qu'il y a dans le sac à dos peut attendre un autre moment, que ça repèse trop et que du coup, on s'en occupe, quoi.
Ouais, il y a un temps pour tout.
Complètement.
Il y a un temps pour tout et je pense qu'il faut s'autoriser aussi à faire des pauses de temps en temps dans le travail sur soi. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Moi ça arrive souvent hein, qu'il y ait des gens qui viennent et puis au bout d'un moment ça va beaucoup mieux, ils arrêtent et puis finalement je sais pas, 6 mois, 1 an après il y a eu un nouvel événement qui a réactivé d'autres choses, du coup ils reviennent, mais ils reviennent pas forcément pour 6 mois hein. Ça peut être quelques séances et puis on traite ce qui a réactivé et puis après c'est ok. Donc en fait je pense que quand on expérimente des outils qui nous permettent d'aller mieux, ensuite on sait que c'est là, donc on va pas attendre forcément des années que ça empire. On sait que c'est là, donc on va faire quelques séances, on reprend notre souffle, c'est le cas de dire, et puis après on peut repartir.
Et c'est ça, tu vois, qui est beau aussi, c'est de se dire en fait que c'est un travail qui s'arrête jamais. Donc pour certains ça peut être frustrant, mais en fait pour moi c'est surtout de, en fait la vie elle fait que avancer, donc en fait t'auras toujours besoin un peu d'aide pour travailler sur certains aspects, on aura toujours des choses qui nous auront blessés, qui nous auront peut-être traumatisés, enfin c'est la base de la vie en fait finalement. Et au contraire j'ai l'impression que si on fait quand même un gros travail au départ, comme tu dis le sac à dos après il est quand même moins lourd et du coup tout est un peu plus facile, même s'il y a des moments où ça reste de nouveau difficile, dans ce cas là on se refait accompagner et du coup c'est ça qui est intéressant. Et au contraire, tu vois, enfin, je sais pas ce que toi tu voudrais répondre. Je me souviens d'une phrase d'une de mes patientes quand j'ai voulu essayer de lui faire comprendre que peut-être qu'une partie de ses mots n'était pas que due à des mots physiques, mais qui pouvait être due aussi à des expériences émotionnelles qu'elle avait eues auparavant. Et du coup, quand j'ai essayé de lui exprimer ça, elle m'a dit vous pensez que j'ai besoin d'aller voir une psy? J'ai dit je ne sais pas, mais en tout cas je pense qu'au niveau émotionnel il y a peut-être besoin de faire un travail derrière avec qui, ça je sais pas, c'est vous qui décidez, mais je pense que ça peut être important. Et elle m'a répondu non mais je suis pas folle. Je pense que tu le sentais venir, mais enfin et je me suis retrouvée un peu conne en me disant mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Et du coup je me suis rendu compte que dans ma tête j'étais là mais j'avais envie de lui répondre mais au contraire vous seriez folle de pas voir que en fait c'est ça le problème et qu'il faut s'en occuper. Pour moi au contraire presque les personnes, je sais même pas si le mot folle en fait est vraiment le bon, mais en tout cas les personnes qui vont pas consulter alors qu'ils en ont plus besoin, mais c'est presque eux les plus dangereux, alors qu'au final c'est ok, complètement humain de dire qu'on a besoin d'aide en fait sur certains aspects quoi. Encore plus avec l'éducation qu'on a eue. Enfin, à part s'il y en a quand même une éducation émotionnelle, moi, ça n'a pas du tout été le cas.
Ouais, alors ça fait partie des préjugés, hein, malheureusement, qu'on entend encore, qu'on entend moins, hein, parce que, notre génération, autour de la trentaine, quand même, il y a une ouverture d'esprit qui est là chez la plupart des personnes. Un peu plus chez les femmes, c'est vrai, hein, y a quand même une majorité de femmes en thérapie, même si j'accueille certains hommes avec joie. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la folie. Je pense que ces préjugés, ils viennent du début, en fait, du soin dans la santé mentale. C'est-à-dire que, en effet, hein, les psychologues au tout début, ils étaient dans les hôpitaux psychiatriques avec des psychiatres. Et puis après, bon, il y avait la psychanalyse, etc. Où là, c'était plutôt réservé, on va dire, à une élite au début. Ce que je répondrais, c'est que, en effet, il n'y a rien à voir avec la folie. Enfin, il n'y a rien à voir et tout à voir, dans le sens où, moi, ma perception, mais elle engage que moi, c'est que quand on atteint, quand on dit la folie, bon, voilà, c'est un terme qui est plus utilisé aujourd'hui, mais que si on parle de pathologie psychiatrique, qui n'est pas de la folie, hein, d'ailleurs, mais pour moi, c'est quand, justement, il y a eu un surplus, il y a eu un gros surplus de gros traumas sur plusieurs générations, etc., etc., et qui crée qu'il y a besoin d'une déconnexion en fait avec la réalité. Et c'est là que viennent certaines pathologies psychiatriques. C'est ma vision en tout cas. Mais heureusement non, qu'on n'a pas besoin d'avoir des pathologies psychiatriques importantes pour consulter. Et en fait c'est aussi de la prévention, parce que sans parler de pathologies psychiatriques comme la bipolarité, la schizophrénie, etc., si on parle de dépression, donc la dépression c'est quand même un trouble mental qui touche beaucoup de personnes dans l'histoire d'une vie, si on va faire ce travail en amont, la dépression elle aura pas besoin de venir. Parce qu'on aura fait circuler, encore une fois, hein, je reviens à cette idée de mouvement, mais la dépression c'est quoi? C'est un figement en fait, parce qu'il y a eu trop au niveau émotionnel et donc du coup il y a ce figement. Crise d'angoisse, voilà, ça se traduit d'une autre manière, mais c'est un trop-plein qui a besoin de sortir. Donc, si vous n'avez pas envie d'être fou, allez en thérapie.
C'est ça. Et c'est aussi, tu vois, une question qu'on me pose souvent ici, c'est « Mais comment on fait pour trouver un bon psy ?» Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas de bon ou mauvais psy à proprement parler, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être vachement difficile, ils ne savent vraiment pas à quoi s'attendre. Bon, c'était aussi un peu le but de l'épisode, de pouvoir démystifier un peu tout ça, mais est-ce que toi, tu aurais des conseils là-dessus pour aider les personnes qui voudraient consulter à trouver quelqu'un avec qui ça pourrait matcher?
Faire confiance en ses ressentis. Enfin, moi, je parlais de moi, du coup, ma manière de trouver des thérapeutes. parce que j'ai beaucoup changé. Moi, je fais confiance quand même en la vie. Hein. J'ai cette croyance qu'elle nous amène ce dont on a besoin pour explorer, expérimenter des parties de nous. Donc, je suis beaucoup sensible aux bouche-oreille. Donc, quand j'entends des témoignages de personnes en qui j'ai confiance, qui me parlent de certaines séances avec certains thérapeutes, parfois ça me donne envie, parfois ça me donne pas envie, mais du coup j'écoute ça. J'écoute principalement ça, puis après ça peut être aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de communication, donc on peut aussi rencontrer des gens sur les réseaux sociaux et être sensible à ce qui dégage leur énergie, les mots qu'ils utilisent, etc., etc. Donc ça aussi, il faut faire confiance à ce qu'on ressent en fait. Je pense que en effet, il y a des techniques, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des techniques, mais il y a aussi l'histoire de la rencontre en thérapie. Et ça, j'y crois aussi. La rencontre est hyper importante, parce que tout simplement, la rencontre, c'est quoi? C'est la rencontre de deux histoires, de blessures différentes, et de manières de réagir à ces blessures de manière différente. Et donc du coup, en fonction de mes blessures, je vais avoir besoin en face d'une énergie particulière, d'une réponse à ces blessures particulières. Et donc du coup, c'est hyper important que je puisse trouver la personne qui dégage cette énergie-là. Il y a certaines personnes qui vont avoir beaucoup de douceur chez leur thérapeute, qui vont avoir besoin de ça pour pouvoir s'autoriser à déposer, etc. Il y en a d'autres, au contraire, qui auront besoin de quelque chose de plus cadré, de plus peut-être dans une énergie plus yang, plus dans l'action. Et c'est ok aussi. Donc l'idée, c'est déjà d'observer de quoi vous avez besoin pour vous autoriser à votre vulnérabilité. Parce que le travail, c'est ça aussi, hein, c'est contacter avec ses parts de nous blessés. Donc de quoi j'ai besoin en face pour me connecter à ça? Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et puis après, vous pouvez appeler les thérapeutes, vous pouvez leur poser des questions sur leur technique, vous pouvez, ça c'est tout à fait ok de le faire. Vous pouvez consulter bien sûr les sites internet de ces personnes-là. Et il se dégage quand même quelque chose sur la manière d'écrire, s'il y a des photos, ben voilà, il y a aussi quelque chose qui se dégage au niveau du physique. C'est vraiment voilà, se reconnecter à soi et à cette idée de quoi j'ai besoin pour me connecter à ma vulnérabilité.
Mais c'est vrai que pour avoir essayé d'accompagner un tout petit peu une amie qui cherchait à consulter et qui justement me demandait comment moi j'avais fait, bon moi c'était du bouche à oreille très clairement, ça a été un peu de toute façon comme la première fois que j'ai fait un cours de yoga, on m'a donné 3 fois le même nom dans la même semaine, donc j'ai pris ça pour un signe et je me suis dit bon allez, feu, on y va. Et c'est vrai que du coup cette amie-là m'avait dit qu'elle avait eu beaucoup de difficultés parce que beaucoup de psys n'avaient pas de site internet en fait, ou en tout cas elle ne trouvait pas, il y avait juste un nom, un numéro de téléphone, et pour elle qui avait besoin justement de d'avoir un peu une idée un peu plus, mais du coup c'était compliqué. Donc si jamais il y a des psys qui nous écoutent, enfin je pense que ça peut être intéressant en tout cas même pour attirer aussi des personnes avec qui ça va matcher, de prendre le temps de faire un site internet, ben, comme toi tu l'as fait au final. Moi je trouve que ton site internet il te ressemble de ouf en fait, c'est vraiment toi, et du coup ben, je trouve intéressant même pour tu vois les patients quand ils viennent, parce que c'est vrai que je me rends compte que ben, ça les aide quoi. Et des fois on laisse ça un peu de côté, alors qu'au final, je pense que c'est vraiment important.
Ouais, je suis d'accord, et je rebondis sur ce que tu dis d'attirer en fait les personnes avec qui ça va matcher, parce que en effet, voilà, on peut pas aider tout le monde, il y a des personnes avec qui on va être plus efficace entre guillemets, et c'est les gens avec qui ça va matcher au final la rencontre. Parce que bon, il y a les techniques certes, mais bon, je précise quand même que je fais pas que des techniques tout le temps. Je propose aussi des espaces de parole, parce que parfois on en a besoin en fait. On a juste besoin de se déposer et d'être écouté et justement reconnu dans sa souffrance. Donc je propose aussi ces espaces-là, et souvent je les alterne en fait. Hein. On alterne des séances de parole et des séances en fait de techniques. Et puis souvent dans la séance en fait consacrée à la parole, ben ça va nous aider à trouver le prochain objectif en fait par rapport à la séance où on va utiliser la technique. Donc ils sont hyper importants aussi ces moments-là. Ça nous permet de resituer, de dire ok ouais bon en fait je pense que ça vient de ce souvenir-là, et du coup on prévoit la séance d'après de travailler ce souvenir-là.
C'est ça qui est trop intéressant. Mais bon, je vais arrêter parce que j'ai l'impression que j'ai dit ça 41 fois dans cet épisode. Mais moi, ça me fascine vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, quelque chose qui serait important pour toi de transmettre là, aujourd'hui via cet épisode-là? Ou qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui hésitent encore après cet épisode à aller consulter?
Que c'est une formidable expérience de rencontre avec soi. La rencontre avec l'autre, elle vient toujours en fait en tant que miroir, et du coup nous permet de nous rencontrer nous-mêmes, et ça c'est vraiment le chemin d'une vie, et de s'offrir cette pause là dans notre quotidien à tous qui est assez chargé en règle générale, c'est aussi un moment de pause où on se reconnecte avec nous-mêmes et du coup avec ses parts blessées, et si on fait ce travail là, bah, ce sera plus doux, parce que encore une fois hein, si on va pas écouter, ressentir, etc., le risque c'est que ça peut s'amplifier, parce que comme tu disais tout à l'heure, bah, la vie elle amène son lot de challenges hein, c'est normal, mais par contre on n'est pas obligé de les subir de la même façon. Et puis souvent quand même aussi hein, il faut quand même le noter, quand on va travailler sur nos blessures, la vie nous amène pas les mêmes choses.
Complètement.
Parce que si c'est ok qu'on a travaillé et guéri cette blessure-là, ben on n'a plus besoin de la revivre non plus. Hein. C'est le principe de la répétition de nos schémas hein, qu'on se construit étant enfant et qui nous pousse aussi à répéter certaines situations. Si on va guérir ces espaces-là, on aura moins besoin de les vivre, et donc du coup, ça permet aussi, je pense sur le long terme, de vivre autre chose dans notre présent. Et ça, c'est plutôt chouette.
Trop. Et est-ce que là, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont de la Côte Basque, du coup, on a dit qu'on pouvait te retrouver à la Maison de la Femme. S'ils veulent peut-être un peu plus échanger avec toi, ou pourquoi pas venir te consulter, comment ça se passe? Quel contact? Je mettrai tout quand même en bas dans la barre de description, mais comment est-ce qu'on peut suivre tes actualités et puis savoir quand est-ce que tu lances le breathwork aussi? Je te mets pas du tout la pression.
Je le lancerai, c'est sûr. Après, j'attends voilà, de faire les modules en profondeur. Du coup, je pense que je vais lancer À partir de fin septembre, les consultations individuelles en breathwork. Et à partir de novembre, fin novembre, les groupes. Alors du coup, ben, le plus simple, c'est m'appeler donc sur mon numéro de téléphone. Tu me mettras du coup
juste en bas.
Ensuite, il y a mon site internet si vous voulez regarder un petit peu plus. Donc c'est mon nom et mon prénom tout attaché. Donc Marina Colombé, colombet.fr. Et ensuite, donc j'ai une page Instagram sur laquelle je ne suis pas très active, mais où je mets quand même les actualités. Donc quand je ferai des groupes, je le mettrai là. Donc c'est Marina CLB sur Instagram.
Parfait. Bah, merci beaucoup Marina.
Merci.
C'était trop chouette
de m'avoir reçue.
Bah non, avec plaisir.
Pour cette première.
Et oui, c'était une première, mais tu étais vachement à l'aise, donc c'est très bien. En tout cas, merci. Et puis de toute façon, on se dit à très vite à la Maison de la Femme.
Ouais, à bientôt. Merci Maïté.
À bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors j'espère que cette conversation avec Marina t'a plu et n'oublie pas que si tu es du Pays Basque, eh bien, tu peux venir la consulter directement dans son cabinet à Cibourg. Elle a aussi lancé ses sessions de breathwork. En tout cas, je vais expérimenter le breathwork là. Cette semaine, vendredi. Donc j'ai trop hâte. En même temps, j'appréhende un peu, mais j'ai vraiment hâte parce que je fais une confiance infinie en Marina. Et donc je me dis que peut-être la semaine prochaine, vous aurez un épisode solo avec moi, peut-être sur mon retour sur le breathwork, ou peut-être que j'attendrai encore un peu en fonction des ressentis, de est-ce que j'aurai envie de partager cela avec vous ou pas. Peut-être, restez connectés dans tous les cas. Mais si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Si cet épisode vous a plu, à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi venir poser vos questions en commentaire sur Instagram. Et en tout cas, n'hésitez pas, pareil, comme d'habitude, à noter cet épisode de podcast et ce podcast sur Apple Podcasts ou Spotify. En tout cas, ça nous a fait trop plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Et puis, je vous souhaite à bientôt dans le prochain épisode d'Anna à ta podcast, le podcast au cœur de la santé des femmes.